Vous écoutez des Rhiums environnementales, troisième et dernière section d'émission en cette belle semaine de la mise en application du protocole de Kyoto. On est émus, on se peut plus. On parlait tout à l'heure de comment les villes pouvaient agir pour faire leur part pour atteindre les objectifs du protocole de Kyoto. Eh bien, belle nouvelle dans le Devoir du mardi 15 février 2005, signée par Jeanne Corriveau. Ben non, c'est pas Louis-Gilles Franqueur pour une fois. C'est pas qu'on t'aime pas, Louis-Gilles, au contraire. Mais ça nous dit que ça doit te faire du bien des fois, pas toutes les faire. Tout ça pour dire que Mme Hélène Fotopoulos, qui est responsable du dossier des espaces verts au comité exécutif à la Ville de Montréal, songe à créer, elle songe, hein, c'est pas encore fait, mais elle songe au moins à créer un programme d'aide pour encourager le verdissement des toits auprès des propriétaires d'immeubles résidentiels. Parce qu'on sait que les toits verts pourraient faire une belle différence aussi.
Mais comment?
Et comment? Eh bien, de plein de sortes de façons, dans le sens d'une question. Ben en fait, là, si tu penses seulement à la toiture, ça va aller la durée de vie de la toiture, mais aussi il protège les immeubles contre les rayons solaires, réduisant ainsi les effets de la chaleur urbaine et la fréquence des épisodes de smog.
Sans parler, évidemment, que c'est un excellent isolant. Exactement. Puisque la chaleur pénètre moins durant l'été et sort moins durant l'hiver.
Mais donc, c'est merveilleux, tout le monde devrait en faire.
Donc, bien tout à l'heure, on parlait de l'action citoyenne. Si vous voulez peut-être envoyer un petit mail à Mme Fotopoulos pour lui dire de passer de la songerie à l'action, ce serait intéressant. Ça serait une belle façon de s'impliquer. Très facile à trouver. Vous tapez son nom sur Google, vous allez avoir tout de suite ses coordonnées.
Il n'est pas compliqué à trouver, Fotopoulos.
Fotopoulos, c'est pas d'avoir bien. Mais PLN,
si,
son prénom.
Juste un autre conseil, comme ça, si vous entendez bien avec votre propriétaire puis vous voulez négocier un petit quelque chose, vous savez que les bâtisses au Québec sont construites de façon relativement forte puisqu'elles doivent supporter des charges de neige importantes. Donc, la modification en toit vert n'est pas si complexe que ça et est définitivement avantageuse du point de vue environnemental, notamment avec la charge en eau, puisque vous savez qu'on réduit toutes ces eaux qui s'en vont directement dans les égouts lorsqu'il pleut.
Les eaux de ruissellement. Et en fait, pour tout savoir, vous avez qu'à contacter le Centre d'écologie urbaine qui estime que d'ailleurs que Montréal est 10 ans en arrière en termes de toiture verte, mais surtout qui ont l'expertise, qui ont publié un ouvrage pour vous expliquer ce que c'est les toits verts et comment c'est facile et comment c'est utile. Trêve de toit verrerie. Voilà, merci. Protocole de Kyoto, on a parlé de points positifs, de points plus négatifs. Il y a aussi des clauses qui sont décevantes, pas nécessairement dans le protocole de Kyoto en tant que tel, mais il y a certains événements sur la scène internationale qui sont source de déception. On s'en doute, les États-Unis, mais pas en fait eux, mais leur chef.
Oui.
Grande déception,
leur
bien
chef,
entendu.
L'administration en général, probablement aussi les grandes multinationales qui se font un plaisir fou à influencer leur président. Mm-hmm. Et évidemment, le retrait en 2001, dès l'élection de M. Bush, son retrait du protocole de Kyoto et la non-ratification a été la plus grande déception, puisque vous savez, les États-Unis représentent 25% des émissions de gaz à effet de serre planétaire.
Mais ils représentent 4% de la population mondiale.
En plus, imaginez.
Donc,
évidemment, ce retrait-là a été dramatique. A même fait tergiverser pendant longtemps la Russie qui mm-hmm. se disait, écoutez, si les États-Unis ne sont pas là, nous autres, on ne veut pas rembarquer. Mais on se rappelle que la Russie a été finalement séduite par l'option Kyoto et a décidé de ratifier. Donc, la question des États-Unis, je vais vous en parler un petit peu parce que ça brasse beaucoup aux États-Unis en ce moment. Vous mm-hmm. savez que maintenant que Kyoto est en œuvre, les pressions politiques internationales sont directement pointé sur M. Bush lui-même. Et puis même au sein du parti républicain, oui.
Je ne fais pas d'erreur.
Eh bien, il y a déjà des pressions. Il semble y avoir une espèce de consensus qui est en train de s'établir sur le fait que les États-Unis se doivent de passer à l'action. Quitte à ne pas ratifier Kyoto, mais d'au moins avoir une certaine stratégie. On ne sait pas encore les détails, mais M. Blair, vous connaissez M. Tony Blair, mm-hmm. le premier ministre britannique, s'est juré, étant le président du G8 cette année, s'est juré de faire fléchir les États-Unis par rapport à la question des changements climatiques et d'influencer leur position face à Kyoto. Donc, Blair s'est carrément mouillé, probablement en essayant de se dissocier de l'image de chien de poche qu'il avait avec l'Irak, en disant, écoutez, on n'est pas d'accord avec la position des États-Unis par rapport au changement climatique et on veut absolument que les États-Unis embarquent dans la game. Donc, on pense nécessairement que ça va jouer un rôle, à savoir ça va être quoi l'influence, ça reste à voir.
Il reste aussi qu'il faut faire attention à ces pays-là qui disent on va faire nos propres normes, notre propre Kyoto, puis on va laisser faire celui qui est approuvé par tous. Présentement, en 2005, en ce début 2005, il y a un seul pays qui a décidé de ne pas adhérer à Kyoto et de se fixer des normes individuelles, qui a réussi à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, c'est la Croatie. Tous les autres qui n'ont pas adhéré à Kyoto, le Kazakhstan, les États-Unis, l'Australie, ont augmenté leurs émissions. Et le raisonnement américain dans ce sens-là, états-unien, pardon, quelle faute! Je ne recommencerai plus jamais.
Shame on you.
Et voilà. Les États-Unis ont un raisonnement qui est un peu dangereux. Eux autres, ce qu'ils disent, dans le fond, c'est que ce qui est important, c'est pas l'émission de gaz à effet de serre.
Ah non?
Mais c'est l'efficacité. Et eux autres pensent en termes de production. Donc, ils se disent, nous, États-Unis, les plus forts du monde et tous les compliments qu'ils peuvent se donner, on est le pays au monde qui, par PIB, par unité de produit intérieur brut, utilise le moins de gaz à effet de serre. Comparativement à d'autres pays en voie de développement qui, eux, pour la même quantité de richesse qu'ils produisent, produisent beaucoup plus de gaz à effet de serre. Le seul problème, c'est que la production augmente tellement vite aux États-Unis que quand même bien qu'on est efficace, ça ne suffit pas à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et le problème, c'est que la Terre, elle s'en contrebalance des unités qui sont produites. Elle, c'est les gaz à effet de serre qui la consomment. Donc, c'est un raisonnement qui est absolument, on ne sait plus quel est l'adjectif utilisé avec eux autres, mais on va dire simplet, sot. Je sais pas. On va essayer d'innover un peu.
Un des arguments des États-Unis pour ne pas ratifier Kyoto, c'était évidemment la non-participation de la Chine au protocole de Kyoto. Vous savez que la Chine a ratifié Kyoto, mais elle n'a pas de mesures contraignantes. C'est-à-dire qu'elle n'a pas à réduire ses émissions de gaz à effet de serre.
Elle n'est pas un des 37 pays industrialisés dont on parlait au début de l'émission.
Elle est considérée en voie de développement?
Oui. C'est du développement au cube, ça, quand on parle. 167% d'augmentation du PIB en 10 ans, c'est impressionnant. Donc, cet argument de la Chine qui ne participe pas est en train de tomber, puisqu'on apprenait le 13 février dernier, c'est-à-dire avant-hier, au dimanche, que la Chine a décidé de revirer de bord complètement. Et en fait, on annonce, la présentation de cette nouvelle qui était sur The Independent nous dit, écoutez, c'est un des virages idéologiques et politiques les plus drastiques jamais connus dans l'histoire de l'humanité. C'est pas n'importe quoi. Donc, la Chine a décidé de carrément arrêter 22 projets énergétiques, que ce soit les barrages, on pense entre autres au barrage des Trois Gorges, des constructions de centrales au charbon, certains projets énergétiques assez controversés, et elles ont dit on arrête tout ça et on réévalue notre pression environnementale, en fait notre empreinte écologique en Chine pour s'assurer que le développement qui s'en vient avec ces augmentations drastiques du PIB se fasse dans le respect de l'environnement. Et évidemment, c'est un discours qu'on n'entendait même pas il y a 6 mois. Et puis maintenant, la Chine qui se positionne par rapport à leurs émissions de gaz à effet de serre, on savait que c'est le deuxième pays le plus grand émetteur après les États-Unis. Et cette reconsidération-là, qui en fait met une halte à 7,5 milliards, en fait c'est des livres, excusez-moi, l'article est du Independent, donc c'est British. Mais bon, on parle d'investissements majeurs qui sont en cours, qui sont bloqués par cette décision du gouvernement chinois pour se dire on veut faire un développement vert. Quand les États-Unis regardent ça, par exemple, on se retourne vite sur notre chaise et on dit ouais, maintenant, y en a-tu d'autres gros géants qui vont prendre position?
Kyoto, c'est bien beau, mais après, qu'est-ce qu'on va faire après Kyoto? Parce qu'en fait, c'est pas à vitam aeternam, c'est un protocole qui va être en vigueur pendant une certaine période jusqu'en 2010-2012.
Exactement.
Suite à quoi, on va devoir revoir, d'abord si on est encore s'il y a encore des humains sur cette planète pour jaser. On va devoir revoir si est-ce qu'on continue dans cette direction-là, est-ce qu'on augmente nos efforts ou quoi. Il y en a qui prennent de l'avance, l'Europe entre autres, Nicolas Mainville.
Ben oui, Mainville, moi-même. L'Europe, en fait, qui est déjà en train de négocier comment les réductions vont s'établir après 2012. Donc, l'après Kyoto est en négociation en Europe. C'est probablement, mais en fait, c'est la Commission européenne représente la première institution étatique à faire ces genres de calculs-là, ces évaluations-là. Évidemment, c'est accueilli positivement dans le monde environnemental, puisque vous vous rappelez qu'à Buenos Aires, en décembre passé, avait lieu le COP10, donc la conférence des parties, des signataires du protocole de Kyoto, qui évaluait justement l'après Kyoto, à savoir comment qu'on va se diriger. Et puis, on avait un représentant québécois qui assistait là-bas à cette conférence. C'était Hugo Séguin, qui est coordonnateur aux communications chez Équiterre. Et puis, Hugo s'est formé une position assez intéressante, une opinion par rapport à ça qui est intéressante, et qui a présenté dans le cadre du colloque sur les changements climatiques qui se tenait à la biosphère aujourd'hui même. Et puis, ce que nous a appris Hugo, c'était entre autres que peut-être la prochaine conférence des partis se tiendrait à Montréal, ici même. Et puis, c'est un scoop, puisque c'est pas encore annoncé, mais évidemment, ça laisse sous-entendre probablement certaines conséquences. Donc, j'ai demandé à Hugo Séguin quelles étaient ces conséquences. Est-ce que c'était positif ou négatif? Alors, on écoute Hugo Séguin d'Équiterre, responsable des communications.
D'abord, c'est une excellente nouvelle que Montréal soit la ville hôte de la prochaine conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est stratégique parce que les enjeux les plus fondamentaux des prochaines négociations qui commencent cette année en 2005, c'est qu'est-ce qu'on fait des États-Unis? Comment on les entre dans le club des signataires de Kyoto? Parce que pour l'instant, les États-Unis sont non signataires de Kyoto, n'ont aucune contrainte de réduction de leur propre gaz à effet de serre. Et l'enjeu fondamental, c'est de les amener avec nous vers les grands objectifs de réduction qui sont de 40, 50, 60, 70 de réduction globale planétaire d'ici la fin du siècle. Moi, je ne pense pas que l'administration américaine va bouger dans les prochaines années sur Kyoto. Ce qu'on peut espérer, c'est d'aller chercher la frange la plus progressiste de la société américaine, les entreprises progressistes, les États progressistes, les parlementaires, les gens de la société civile, et de les amener à travailler dans le sens de Kyoto, malgré le fait que l'administration américaine n'est pas signataire et ne veut pas être signataire. Le fait que ça se passe à Montréal, ça nous permet d'avoir des discussions avec ces gens-là, ça permet au gouvernement du Québec de jouer de sa diplomatie auprès des autres États américains, ça permet à la ville de Montréal d'inviter des grandes villes américaines pour discuter de ces enjeux-là, et ça permet aux groupes environnementaux de tendre la main aussi aux groupes environnementaux américains pour pouvoir travailler ensemble.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Delirium Environnemental. On vient d'entendre de Hugo Séguin, responsable des communications au groupe Équiterre.
Une position intéressante, je trouve, par Hugo Séguin, qui nous forçait de se rappeler que Kyoto est mort. Et c'est une déclaration qui est tout pleine de sens, puisque les négociations dans le cadre de la COP, la conférence des partis qui se tenait à Buenos Aires, n'ont pas porté conclusion. Par contre, il faut comprendre que les mécanismes qui sont mis en place maintenant ne sont pas faits pour mourir. Au contraire, je pense que ça va lancer une nouvelle vague, une nouvelle mentalité même dans les pays, dans les entreprises. Et puis, on va développer un espèce de changement de paradigme par rapport à notre relation avec l'environnement. Donc, faut accueillir la mise en branle de Kyoto comme une nouvelle porte qui est ouverte, une petite porte de rien du tout, mais faut pas penser que cette porte est inutile. Au contraire, même si on n'a pas réussi à s'entendre sur ce qui s'en vient, eh bien, c'est des choses qui vont se négocier, et probablement comme mentionnait M. Séguin, les pressions sur les États-Unis vont devenir de plus en plus grandes, et puis peut-être, qui sait, d'ici 5 ou 10 ans.
Ben, les prochaines élections.
Peut-être.
Qui sait, d'ici 10 ans. Non, il va en avoir avant quand même.
Donc, évidemment, on parlait de la position de l'administration états-unienne sur la question des changements climatiques, qui refute toujours l'importance scientifique et
les
preuves
scientifiques. Non, mais là, il n'avait pas finalement avoué qu'il croyait en la thèse des changements climatiques. Ça avait été très drôle, d'ailleurs, qu'il utilise le terme « I do believe now ».
Il croyait en la thèse de l'effet de serre.
Ah, voilà, c'était en l'effet de serre. Lui, il ne croyait pas encore à ça. Pourtant, dans l'article du Devoir, s'il l'avait lu, il aurait bien vu que ça date de 1780, ces idées-là.
Et voilà.
Pas très, très informé. En fait, je me demande des fois si c'est lire. Mais bon. Donc, c'est vrai, je pense que c'est une note importante sur laquelle tu as fait un retour sur le commentaire de M. Hugo Séguin, tes quitteurs. Donc, parce que, justement, c'est ce qu'on disait en début d'émission, c'est un petit pas. Mais c'est un grand pas aussi, donc c'est un grand pas pour lui-même, un petit pas pour la planète. Il y a quelque chose d'exceptionnel du fait que pour la première fois, on se donne tous la main pour dire « OK, ensemble, on va être capable parce qu'on n'a juste pas le choix ». C'est un peu enfantin comme façon de l'articuler, mais c'est ça quand même.
Tout à fait.
Ben peut-être terminer notre méga sujet Kyoto de la journée, peut-être en vous rappelant que on est dans une période où est-ce que c'est sûr que demain matin, on réduira pas de 20% nos émissions de gaz à effet de serre, mais vous dire que des gestes doivent être accompli, il y a des décisions qui doivent être prises et il y a des attitudes qui doivent aussi être manifestées de la part de nos politiciens, de nos gouvernements, et que vous, les auditeurs de Delirium, que vous soyez déjà des environnementalistes convaincus, acharnés, qui militez beaucoup, ou que vous nous entendiez peut-être même pour la première fois, puis que vous voulez vous sensibiliser de plus en plus à la cause environnementale, c'est de notre devoir à tous de rappeler que prenez nos députés, que ce soit nos députés comme premier niveau de rappel, rappelez-leur les engagements de Kyoto que le Canada a signé et que le Québec a accepté. On se souvient que le Québec a manifesté son grand accord jadis quant à Kyoto. Eh bien, rappelez-leur ce que ça implique. Rappelez-leur ce que vous voyez dans vos villes, ce que vous voyez dans vos régions, et donnez-leur des idées, parce que c'est quand une population en entier pousse dans... je dirais pas ce que je voulais dire. Quand une population en entier se mobilise derrière une cause, qu'on voit un transfert du côté du politique, puis c'est à nous de prendre cette position-là.
Et d'autant plus que c'est important, puisque je mentionnais la question de changer de paradigme. Vous savez, c'est la première fois qu'un traité international force une décroissance. C'est la première fois qu'on a à imaginez le concept de décroissance. Ici, on ne parle pas de décroissance économique, évidemment. Il y en a beaucoup qui ont peur de cette décroissance économique-là, mais on parle de décroissance, point de vue pollution, émission de gaz à effet de serre. Vous savez qu'on émettait en 1990 609 mégatonnes de gaz à effet de serre. On est rendu en 2002 à 731 et on doit passer à 571, donc réduire de 6% sous 1990. Donc ce concept de décroissance-là est complètement aliénant pour les gouvernements en ce moment, pour les industries, et ça fout la chienne, les jetons aux gens en général, puisqu'on a peur des conséquences. Si on est capable de se rentrer dans la tête qu'il y a une réorientation économique à faire, une réorientation idéologique aussi, et que chacun, on fait partie de cette nouvelle vague Kyoto, eh bien on va pouvoir parler à nos enfants en disant, écoutez, on a réussi à faire ce U-turn-là, finalement. Ça a été laborieux, excusez-moi, là, je suis vraiment solennel, là, mais bon, c'est important de le mentionner parce que c'est vraiment historique. Puis si on peut clore ce gros dossier Kyoto en disant, ce moment historique est à prendre pour chacun. On est personne, individu, entreprise ou pays non concerné par cette question-là. Alors, comme disait si bien Sofiane, allons-y, main dans la main.
Hey, dernière partie d'émission, toute petite dernière partie d'émission, donc on se la fait parce qu'on est supposé faire une revue de l'actualité. On a beaucoup parlé de Kyoto parce que c'est ce qui faisait l'actualité cette semaine et qui sait ce mois-ci. Moi, je propose qu'on annule la Saint-Valentin, qu'on abolisse à la Saint-Valentin, puis qu'on décide plutôt de célébrer le protocole de Kyoto à chaque année, le 15 ou le 16 février. Parce que, bon, ça a des conséquences, la Saint-Valentin. Mais en tout cas, on peut en parler.
Pareil, là, c'est pas grave.
Ben oui, mais tous les autres jours de l'année, il n'y a pas de problème. Mais là, en tout cas, c'est ma suggestion, pensez-y, vous pouvez en parler à vos députés.
Donc, prochain 16 février, on ne peut pas personnellement émettre de gaz.
Quelle drôle d'idée. Donc, il va avec les petites vites. En bref, cette semaine, messieurs, qu'est-ce qui vous a touché?
On est parti, bien. Parlant de moyens concrets, il y en a un qui risque de faire de plus en plus surface prochainement. C'est une réutilisation du bateau dans des déplacements de petite distance. La municipalité de Tursault, en Outaouais, a accepté qu'un service de navette se remette en fonction donc, entre l'Ontario et le Québec. Et j'aime cette nouvelle-là parce qu'elle réinsère dans le discours toutes les activités de cabotage. Vous savez, au lieu qu'il y ait un camion qui fasse la Côte-Nord au complet, pourquoi c'est pas comme dans le temps, un beau bateau qui fait port après port, qui laisse les marchandises, qui pollue beaucoup moins. Bravo!
Belle idée! Ben moi, j'y vais, je vous parle de transport. Monsieur Robert Lutz, connaissez-vous Robert Lutz? Eh bien, c'est l'inébranlable vice-président de GM qui avouait récemment que GM a complètement manqué le bateau. Avec la mise en marché des voitures hybrides, au lieu d'analyser cela d'un point de vue strictement financier, nous aurions dû faire comme Toyota et traiter cela comme une dépense publicitaire.
Oh, quelle déclaration!
Monsieur, faites ce que vous voulez, mais faites des chars hybrides.
Parlant, on a parlé beaucoup de Kyoto, alors je vous parle de changement climatique. Une nouvelle étude qui est sortie qui nous dit, écoutez, les oiseaux sont complètement déboussolés par le climat. C'est une étude qui a été faite en Europe. On vous rappelait l'année passée ou en 2003 que 40% des espèces animales et végétales qui ont migré vers le nord, donc dû au réchauffement planétaire, ils migrent vers le nord à une vitesse moyenne de 6,1 km par décennie. Donc vous comprenez que ces populations-là se montent de plus en plus dans le nord puisqu'il fait de plus en plus chaud. Eh bien, on est en train d'évaluer les conséquences que cela a. Et puis, ces migrations et les interactions qu'ont les espèces entre eux sont en train de perturber même les cycles migratoires des oiseaux. Une étude, ma foi, inquiétante que vous pourrez aller voir sur Cyberpresse.
Ben, ça me surprend même pas. On parle de biodiversité, d'oiseaux, biodiversité. On le rappelle, 456 espèces au Canada sont menacées d'extinction. C'est pas tout d'être triste à ce sujet-là. Il faut se mobiliser, faire quelque chose. Je sais pas si ça va nous prendre un accord ou un protocole. On aura l'occasion d'en reparler dans les semaines à venir. Nicolas Milo, une petite vite.
Une petite vite. Peut-être que la musique n'est pas de circonstance, mais tout ce qu'elle nous a apporté,
oui.
L'est. Madame Monique Fitzbach, qui la semaine dernière nous a quittés, militante de longue date à la CSQ. Elle avait vu, lors du dépôt du rapport Brunson en 88, une occasion rêvée de faire l'éducation auprès des jeunes. C'est la cofondatrice du mouvement des écoles vertes Brundtland. Donc, si votre passage parmi nous aura été très fructueux, eh bien, je ne doute absolument pas que votre mémoire continuera de porter des fruits. Merci pour votre belle œuvre.
Merci pour votre belle œuvre et 900 établissements Brundtland qui sont des établissements d'éducation axés sur le développement durable, mais le vrai. C'est beau, merci madame.
Eh bien, la NASA nous annonce qu'en 2005, nous risquons de battre le record de chaleur qui datait de 1998. Vous vous rappelez, en 1998, épisode El Niño catastrophique qui nous faisait briser tous les records de température. Eh bien, 2005 pourrait briser ces records puisqu'on estime qu'il y aura un El Niño encore plus fort. El Niño étant les courants, la remontée des courants chauds dans l'océan Pacifique qui provoque évidemment un réchauffement. On regarde ça avec impatience.
Eh bien, on est en ère Kyoto et nos gouvernements continuent de nous dire que utiliser le gaz naturel, c'est aller vers le développement durable. Eh bien, vous connaissez sans doute le projet Rabaska dans la région de Québec, ce fameux projet de port méthanier. Cette semaine, c'est complètement dégueulasse. Les promoteurs du projet ont mis de la publicité, mais partout. Dans les autobus, les quotidiens, les hebdos, à la télé, partout pour vanter le projet Rabaska de mettre un port méthanier dans sa ville. L'utilisation des pages publicitaires et je pense soumise à des règles très strictes de la part de certaines régies. Mon Dieu, faites un peu de surveillance.
Ah non, c'est quand même assez exceptionnel parce qu'eux ont les moyens de se payer des pleines pages dans les journaux, puis les citoyens, puis ceux qui vont être empoisonnés, tous les enfants de demain, non, eux n'ont pas les moyens. C'est triste.
Eh bien, puisque nous sommes envahis par ces multinationales envahissantes, hein, disons-le, il est temps que les individus et les groupes prennent position, et c'est exactement ce que 20 groupes ont fait la semaine dernière en envoyant directement au Canada, le gouvernement fédéral, un plan stratégique, un budget vert pour Paul Martin, pour influencer Goodale. Alors, on salue ces 20 groupes dont faisaient partie Équitaire et Canard Illimité, entre autres, du côté québécois.
Ben bravo, parce que c'était presque un coup de cœur, ça, et c'est là qu'on est rendu, coup de cœur, coup de masse. Et au calendrier, cette semaine, moi, j'aimerais tout de suite commencer briser la glace. Vous savez, on parle de développement durable, d'environnement. Ben moi, j'aimerais ça donner un coup de cœur aux trois filles qui sont allées porter 103 roses au bureau de Monsieur Charest, de Monsieur Reed, excusez-moi, qui a trop coupé 103 millions dans l'aide financière aux études pour les étudiantes et étudiants du Québec. Monsieur, parlez-moi même pas de développement durable. vous puis tout votre gouvernement. Je vous crois même plus réinvestir en éducation.
Ben, peut-être un petit coup de cœur à Laure Varidel, qui, encore une fois, a usé de son charme. Désolé. Donc, qui, par sa présence à l'émission Tout le monde en parle, a une fois de plus moussé la cause environnementale dans des médias qui rejoignent, ma foi, des millions de personnes. On rappelle le lancement de son livre. Mon Dieu, le café équitable.
Commerce équitable, le code du café.
Le code du café, et voilà. Donc, il sort, je crois, c'est le 21 février prochain.
Au calendrier, peut-être cette semaine, le 21 février, c'est pas cette semaine, mais il va y avoir une grosse manifestation pour le transport en commun. Vous êtes tous invités à l'Hôtel de Ville de Montréal, face à la plage Jacques-Cartier, qui est au métro Champ de Mars. C'est à 18h30 jusqu'à 19h30. C'est Équiterre qui organise ça. Vous pouvez aller voir sur leur site ou sur le nôtre.
Eh bien, on vous organise votre lundi 21 février, puisqu'à 8h, après ce rassemblement d'Équiterre, je vous conseille fortement d'aller au cinéma ONF, au rendez-vous du cinéma québécois, où il y aura le lancement du film Heavy Metal, qui nous parle des conséquences environnementales d'une mine à Oujibougamo, qui est juste au nord de Chibougamo, une communauté Cree qui a été relativement hautement contaminée, notamment par le mercure. Un documentaire aussi qui est un autre documentaire qui sera présenté le 19 février à 16h20 à la Cinémathèque québécoise, qui s'appelle One More River, une rivière de plus, qui nous parle des impacts des barrages d'Hydro-Québec sur l'environnement et sur les communautés. Des genres de documentaires qu'on a de besoin, des genres d'erreurs boréales dans le Nord. Alors, allez voir ça, s'il vous plaît, ça vaut la peine.
Eh bien, comme quoi, il n'y a rien de tel que d'être bien informé, pour savoir de quoi c'est qu'on parle. L'état de la planète 2005 du World Watch Institute, qui va être accessible en français, la version française, qui est disponible le 20 février prochain. Je vous cite une petite citation du bouquin. La guerre contre le terrorisme détourne l'attention du monde des causes profondes d'instabilité, à savoir la pauvreté, la maladie, l'environnement et la surexploitation du pétrole. Alors, vous pouvez aller voir sur www.delaplanete.org en un mot. C'est accessible via ce site.
Hey, moi, j'ai un coup de masse monumental à envoyer à Tony Blair. Vous savez que Tony Blair est en train de forcer la main aux États-Unis pour qu'il ratifie Kyoto, ou en tout cas qu'il se mette en branle. Eh bien, Tony Blair est en train de négocier à la baisse ses émissions de gaz à effet de serre, en fait, ses engagements en tant que réducteur d'émetteurs de gaz à effet de serre. Je dis pas pantoute, hein, ça. Mais bon, un gros blâme à Blair qui utilise un double discours et qui s'est fait solidement rabrouer par la Commission européenne en lui disant « Si vous essayez de réduire vos efforts pour les émissions de gaz à effet de serre, c'est carrément illégal! »
Gros coup de masse! Bravo, coup de masse, dernier coup de cœur, coup de masse. Non, le temps file, on n'a donc plus le temps de faire le coup de cœur, le coup de masse, c'est la fin.
Moi, j'ai-tu le temps d'en faire un petit?
Non, je pense que personne n'a le temps. Mamie, Étienne va se réveiller, puis on va s'apercevoir qu'on a vraiment plus le temps. C'était donc Delirium Environnemental, moi, la voix de fille qui était enfin de retour, c'est Sofiane Lejean. Ça m'a fait plaisir, messieurs, de vous retrouver en studio cette semaine, qui avait tout fait, Nicolas Maville et Nicolas Milo. Vraiment, quel plaisir toujours de se retrouver dans ce petit espace. Patrick Bonin et Hugo Lachapelle, un beau bonjour. Ils se battent chacun pour des causes nobles à l'extérieur du studio pour aujourd'hui. À la console, la régie, la mise en ombre, le webmaster et encore plein d'autres choses. C'est Étienne Côté-Paluc, Delirium Environnemental. Vous pouvez aller nous voir sur notre site internet au www.radiodelirium.net. Ça nous fait toujours plaisir d'entendre parler de vous.
On remercie, évidemment, faut qu'on remercie les gens, les organisateurs du colloque sur les changements climatiques, le Centre d'action québécois sur les changements climatiques.